soirée à tous sur Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal qui vous est présenté par Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Au lendemain des mesures annoncées par Emmanuel Macron, les Français ne sont pas convaincus qu'elles changeront leur situation personnelle. Le gouvernement fait donc le service après-vente sur le terrain. Pour financer la baisse de l'impôt sur le revenu, le président compte notamment sur les entreprises avec la suppression de niches fiscales. Inacceptable, répond le MEDEF. Le plein emploi à l'horizon 2025. Au lendemain de cette annonce, les chiffres du chômage pour le premier trimestre sont en timide baisse, moins 0,7%. La solidarité ne règle pas tout, avait-il l'habitude de dire, mais pour celles et ceux qui la reçoivent, elle est irremplaçable. Julien Lauprêtre vient de disparaître, un homme de cœur et de combat qui a dirigé pendant plus de 60 ans le Secours Populaire, on lui rendra hommage. Et puis le foot, et depuis un peu plus d'une heure maintenant, se joue un match avancé de Ligue 1, un match très important entre Bordeaux et Lyon. Sous vos yeux, Jean Berthelot, avec pour l'instant, me semble-t-il, une domination bordelaise.
Et l'accession directe en Ligue des Champions qui s'éloigne pour Lyon, puisque ce sont effectivement à une demi-heure de la fin les Bordelais qui mènent 2-1. C'est pourtant même Fils de Paille qui avait ouvert le score pour Lyon à la 14e, mais Jimmy Briand a égalisé à la 33e et Nicolas Depréville a donné l'avantage pour l'instant à Bordeaux à la 37e minute. Il va falloir que Lyon réagisse dans les dernières minutes.
Merci beaucoup Jean Berthelot en direct, que l'on retrouvera évidemment plus longuement dans le courant de ce journal. Et puis je vous signale que le FC Metz évoluera de nouveau en Ligue 1 la saison prochaine, après avoir passé une saison en Ligue 2. Sa victoire ce soir 2-1 sur le terrain du Red Star lui a permis de valider son ticket pour l'élite. Les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas du tout d'un point de vue météorologique. Ce sera très gris demain, des nuages pratiquement pour tout le monde sauf au bord de la Méditerranée. Et beaucoup de pluie également. Côté température, le ressenti sera automnal. Ce sera un tout petit peu mieux, paraît-il, dimanche. Prévision météo complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir le fondateur de Drivey, Paulin Demanton. Drivey, c'est le leader européen de la location de voitures entre particuliers.
Europe 1.
Et les ministres sont donc sur le pont au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron pour expliquer, préciser et convaincre sur le terrain. C'est important parce que si l'on en croit les sondages, 63% des Français n'ont pas été convaincus par les mesures annoncées par le président. 8 sur 10 trouvent même que ces annonces ne répondent pas au malaise exprimé par les Gilets jaunes. Jean-Gabriel Bourgeois, vous avez suivi aujourd'hui le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, qui était en déplacement chez lui dans l'heure, tout près de Grand-Bourterould, où avait débuté le grand débat.
Oui, et maintenant que le grand débat est terminé, place à l'action. C'est le service après-vente du ministre en charge de ce grand débat, Sébastien Lecornu, chez lui, dans l'heure, auprès des élus, pour marteler que dans la conférence de presse d'Emmanuel Macron, il y avait des annonces concrètes.
Demandez à celles et ceux qui travaillent et qui sont salariés, qui ont touché la prime d'activité. C'est concret. 5 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, pardon, c'est concret. Pour les élus locaux, un mouvement de décentralisation, un acte de simplification, la réaffirmation que justement on ne fera plus n'importe comment la carte des services publics, c'est concret.
Mais pour les gilets jaunes du rond-point des Braves de Brionne, qui voulaient voir le ministre aujourd'hui à Bernay, le président est resté flou, éloigné des préoccupations du quotidien des Français. C'est ce que déplore Bruno, mobilisé depuis le 17 novembre.
En fait, on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau et que rien va aboutir, donc... l'aboutissement, ça va être quoi? Le mécontentement et les gens dans la rue de nouveau. Il faut que les gens bougent. Il fait beau, il fait plus froid, il faut y aller quoi. Sans gilets jaunes s'ils veulent, mais il faut rejoindre le mouvement.
Et alors que ces gilets jaunes sont d'habitude plutôt modérés, ils ne cachent pas leur envie de poursuivre, voire amplifier la mobilisation dès demain avec l'acte 24 du mouvement et surtout le 1er mai, mercredi prochain.
Le reportage de Jean-Gabriel Bourgeois à Bernay, on vient de l'entendre, ces annonces d'Emmanuel Macron n'ont pas du tout suffi à apaiser la colère des gilets jaunes qui préparent donc leur 24e samedi de mobilisation. Un appel international au rassemblement est notamment lancé à Strasbourg avec la présence de gilets jaunes venus d'Allemagne, de Belgique ou d'Italie. Et puis un autre rassemblement qui était prévu au sommet de la Roche de Solutré en Saône-et-Loire a lui été interdit par la préfecture. Alors parmi les annonces faites par Emmanuel Macron hier liées au pouvoir d'achat, il y a la baisse des impôts, 5 milliards d'euros, 15 millions de foyers fiscaux devraient en bénéficier et devraient payer jusqu'à 300 euros en moins par an environ, d'après les informations et les calculs d'Europe 1. Pour financer cette baisse, le président a dit qu'il faudrait travailler plus avec un allongement de la durée de cotisation. Mais le gouvernement va aussi trouver de l'argent en supprimant les niches fiscales. Alors on ne touche pas à celles des particuliers, ce sont les entreprises qui verront leurs niches fiscales supprimées. Colère du MEDEF, son président délégué Patrick Martin trouve que les entreprises supportent déjà beaucoup de choses.
Il faut s'entendre sur ce que sont les niches fiscales. Elles existent, mais ça n'empêche pas les entreprises françaises de supporter le plus fort taux de prélèvement obligatoire, charges et fiscalité dans tous les pays développés. Donc ce ne sont pas des cadeaux aux entreprises qui seraient remis en cause. Alors qu'on se comprenne bien, supprimer des niches fiscales, c'est augmenter les impôts pour les entreprises. À nouveau, ce sont celles qui, dans les pays développés, supportent le plus de prélèvements obligatoires. Et les entreprises françaises sont dans une bataille économique qu'elles mènent brillamment, mais avec quand même un sac à dos bien chargé sur le plan de la fiscalité. Il y a quelques petites niches fiscales qui portent sur quelques centaines de millions d'euros et dont on peut parler. Mais son déséquilibre est extrêmement précaire et je crois qu'aborder le sujet de cette manière, ça n'est pas très sain. A contrario, le président n'a pas parlé, en tout cas explicitement, de la baisse de la dépense publique, qui est en fait le véritable combat.
Patrick Martin, le président délégué du MEDEF, qui était l'invité du Grand Journal de Mathieu Béliard ce soir sur Europe 1. Et si Emmanuel Macron a promis hier le plein emploi à l'horizon 2025, un tout petit pas a été franchi aujourd'hui puisque le chômage a reculé les trois premiers mois de l'année, Olivier Samin, une baisse de 0,7%.
Toute l'usine est sous choc, là. Tous ses collègues de travail, je peux vous dire que Pascal, il était aimé au travail.
Comme vous le comprenez, ça n'est pas Olivier Samin que nous sommes en train d'écouter. On va essayer de le retrouver dans un petit instant. Olivier Samin qui nous dira que le chômage a baissé très légèrement. Olivier, une baisse de 0,7%.
Oui, moins 0,7%. Autrement dit, 24 200 chômeurs de moins entre le 1er janvier et le 31 mars. On parle là des chômeurs qui n'ont exercé aucune activité au cours du trimestre. Si on intègre dans le périmètre les chômeurs qui ont alterné des périodes sans travail et des contrats de courte durée, là, ce n'est pas une baisse, on peut plutôt parler de stabilité. Ce sont surtout les 25-49 ans qui bénéficient de l'embellie. Le chômage, pour eux, baisse de 1% sur l'ensemble du trimestre, alors que par exemple, le chômage des jeunes, lui, ne bouge pas. Ce qu'on retient aussi, c'est que, tandis que ça va mieux globalement pour les personnes inscrites depuis peu de temps à Pôle emploi, le chômage de longue durée continue d'augmenter, plus 0,3% au premier trimestre et même plus 3,3% sur les 12 derniers mois. Dans ce contexte d'éclaircie sur le plan économique, on voit donc apparaître clairement une forme de fracture entre deux populations de chômeurs différentes, ceux qui peuvent retrouver assez rapidement du travail et ceux qui s'enfoncent dans le chômage de longue durée.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. On a appris aujourd'hui le suicide d'un salarié d'Arjo Wiggins dans la Sarthe, un homme de 53 ans qui venait de recevoir sa lettre de licenciement. Ça faisait 33 ans qu'il travaillait pour l'entreprise où 580 postes vont être supprimés. Denis Leroux est délégué du personnel.
Toute l'usine est sous choc, là. Tous ses collègues de travail, je peux vous dire que Pascal, il était aimé au travail. On savait que c'était fini pour nous. Il n'y avait pas de repreneur. On a reçu nos lettres la semaine dernière. Il était beaucoup plus touché que les autres. C'est vrai qu'il avait toujours travaillé chez Arjo. Depuis l'âge de ses 20 ans, il était chez Arjo. Il se posait beaucoup de questions ce qu'il allait faire après. Il avait 53 ans. Et on pense que c'est la lettre qui a fait la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase et qui a fait passer à l'acte. Ah oui, là on est abattu, tout le monde est abattu. Là.
Denis Leroux, délégué du personnel chez Arjo Wiggins, joint pour Europe 1 par Roman Hockey. Dans la Vienne, la justice a validé aujourd'hui la reprise par le Britannique Liberty House de deux équipementiers automobiles du département, Saint-Jean Industrialu et Fonderie du Poitou. Cela ouvre la voie au maintien de plus de 600 des quelques 800 emplois sur place.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1. Il était en quelque sorte un abbé Pierre, laïque, un grand monsieur qui a consacré sa vie aux plus démunis. Pendant plus de 60 ans, Julien Lauprêtre a dirigé le Secours Populaire, hommage unanime aujourd'hui du monde politique et associatif. Grand combattant contre la pauvreté, dit notamment le Premier ministre. Julien Pierce, combattant, Julien Lauprêtre l'a été toute sa vie.
Oui, Julien Lauprêtre n'avait que 17 ans quand il s'est engagé dans son premier combat, en l'occurrence la lutte contre l'occupant nazi. On est en 1943 à Paris, l'ado suit l'exemple de son père communiste. Il fonde son propre réseau de jeunes résistants. Avec deux anciens copains d'école, Julien Lauprêtre va pendant quelques mois donner du fil à retordre aux soldats allemands. Panneaux de signalisation retournés pour perdre l'occupant, prise de parole dans les cinémas pour appeler à la résistance, tracts jetés à vélo, rien de violent mais suffisant pour se faire arrêter. Direction la prison de la Santé, où pendant 8 jours, Julien Lauprêtre partage la cellule de figures de la résistance. Missak Manoukian et ses hommes, futurs héros de la fiche rouge. Avant d'être fusillé, le poète arménien lui glisse ces mots. « Toi, tu es jeune, tu vas t'en sortir. Il faudra que tu continues à lutter contre l'injustice et surtout être utile aux autres. » Ce message, Julien Lauprêtre va dès lors l'appliquer à la lettre. En 1954, il est embauché pour quelques semaines comme secrétaire au Secours Populaire. Il n'en est jamais reparti. Durant 65 ans, Julien Lepraître n'a eu de cesse de lutter contre la misère, d'aider les plus pauvres et notamment les enfants qu'il a mis au cœur des actions du Secours populaire. Car la plus grande des récompenses, disait-il, c'est de voir les yeux des gosses briller de mille feux.
Julien Pierce, le préfet du Nord, recommande ce soir aux habitants de la région de Dunkerque de ne pas boire l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre. En raison de la rupture d'une canalisation, des analyses bactériologiques sont en cours. 9 scouts d'Europe âgés de 13 à 17 ans ont dû être élitreillés aujourd'hui après s'être perdus dans le massif de la Chartreuse où ils faisaient une randonnée avec bivouac. L'un d'eux a été hospitalisé. Il souffre du bassin et du dos après une chute d'une dizaine de mètres. Les 8 autres étaient affamés, gelés et trempés. Ils en étaient à leur 4e et dernier jour de randonnée et apparemment ils se sont perdus dans une zone raide et glissante où il avait neigé pendant la nuit. Ensuite, ils ont persévéré sur un mauvais chemin. Finalement, l'un d'eux a réussi à descendre jusqu'à un village et à donner l'alerte. 11 jours après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un premier calendrier des travaux a été dévoilé aujourd'hui. Dans un premier temps, il s'agit de sécuriser l'édifice, Chanel Petit.
Oui, et selon les experts, cela devrait prendre 4 mois. C'est un énorme travail qui devrait mobiliser 80 personnes jour et nuit, des menuisiers, des charpentiers, des maçons qui vont commencer par mettre en place ce fameux parapluie dont on parle depuis quelques jours, un parapluie qui va servir à protéger Notre-Dame des intempéries. Alors c'est une opération extrêmement délicate puisque je vous le rappelle, cette voûte de la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle a été terriblement fragilisée par l'incendie. Une fois ce parapluie posé, il va falloir installer tout un réseau de poutres pour soutenir justement cette voûte qui a partiellement brûlé et qui menace maintenant de s'effondrer. Pour la sécurité cette voûte, il va falloir retirer 1000 mètres carrés de vitraux. Donc tout ça, c'est l'opération de sécurisation. C'est ce qui devrait durer 4 mois jusqu'à la fin de l'été. Après, on va entrer dans la phase du diagnostic. Autrement dit, les spécialistes vont sonder en profondeur le bâtiment. Ça va être la base de la restauration. C'est une phase qui prend généralement des années. Et là, il va falloir que ce soit bouclé en quelques mois pour que la cathédrale soit restaurée en 5 ans, comme le veut Emmanuel Macron. C'est loin d'être gagné, selon Frédéric Létoffé, l'un des présidents du groupement des entreprises de restauration des monuments historiques.
C'est un objectif ambitieux. Une restauration de ce type court entre 10 et 15 ans. Et c'est un chantier exceptionnel. Il y a une volonté du gouvernement d'accélérer le processus. Il faut s'en donner les moyens. Ça pourrait être réalisable. Tout ne sera peut-être pas totalement terminé, mais au moins Notre-Dame sera ouvert au public pour ce délai de 5 ans.
Et pour tenir les délais, il y a 2 points qui sont indispensables selon Frédéric Létoffé. Il faut d'abord absolument que les procédures administratives soient facilitées. Et puis un autre défi, c'est de trouver dans les temps suffisamment d'artisans qualifiés et puis aussi disponibles.
Les précisions de Chanel Petit.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h13 et il y a eu de nouvelles manifestations en Algérie aujourd'hui contre le système Bouteflika avec encore des milliers de personnes dans les rues. C'est le 10e vendredi consécutif. Pas de demi-révolution, titre l'édition du week-end du journal Al Watan qui appelle à continuer jusqu'au départ du système dans son intégralité. Les attentats du dimanche de Pâques au Sri Lanka qui ont fait 253 morts pour écouter 1,5 milliard de dollars au secteur touristique cette année. D'ores et déjà, de nombreux tours opérateurs ne proposent plus cette destination. Vaccinez vos enfants, exhorte Donald Trump face à la recrudescence de cas de rougeole qui affole les autorités américaines. La rougeole, virus hautement contagieux qui s'est propagé depuis l'an dernier. L'urgence sanitaire a même été décrétée dans plusieurs villes. À New York, le maire a rendu la vaccination obligatoire dans certains quartiers particulièrement touchés. Et par précaution, 2 universités de Los Angeles ont décrété la mise en quarantaine de centaines d'étudiants qui s'étaient retrouvés au même endroit que 2 élèves infectés. Et puis le foot, vous le savez, ça se passe en ce moment et on suit ça avec vous en direct. Jean Berthelot, Bordeaux-Lyon en match avancé de Ligue 1. Match décidément très serré. Hein.
Ouais, très serré, très animé aussi. Il reste 19 minutes dans ce choc entre le 14e et le 3e. Et c'est vraiment Bordeaux qui a mené cette deuxième mi-temps. Même si Lyon a ouvert le score à la 14e, Bordeaux a égalisé à la 33e par Jimmy Briand après le but de Memphis Depay. Bordeaux a pris l'avantage à la 37e par De Préville. Et puis à la 67e, il y a quelques minutes donc, c'est Maxwell Cornet qui a profité d'une énorme erreur du jeune Jules Koundé, alors qu'à l'instant il y a un carton rouge pour Bordeaux. Je vais y revenir, mais donc Lyon a égalisé à la 67e. Il y a donc 2 partout et on a frôlé le 3-2 à l'instant pour Lyon, mais le but était finalement hors jeu. Et alors là, à l'instant, il y a Jovanovic, le défenseur bordelais, qui vient d'être expulsé par monsieur Bastien. Je dois avouer que dans le stade, personne ne comprend exactement ce qu'il vient de se passer, mais sans doute y a-t-il eu des mots de la part du défenseur des Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui va donc terminer ce match à 10 contre 11. Ça va être très compliqué de tenir face à des Lyonnais qui sont beaucoup mieux ces dernières minutes. Il y a donc toujours deux partout entre Bordeaux et Lyon et 18 minutes à jouer.
Eh bien, merci beaucoup Jean Berthelot. En direct, on fera évidemment un nouveau point avec vous d'ici 22h30 sur ce match très très serré. Je vous rappelle que le FC Metz évoluera de nouveau en Ligue 1 la saison prochaine. Il a passé une saison en Ligue 2. Ce soir, il a battu le Red Star et ça lui permet donc de valider son ticket pour l'élite. Et puis demain soir, ce sera la finale de la Coupe de France entre Paris et Rennes, évidemment, au Stade de France. Le PSG qui sera privé de son attaquant vedette Neymar, suspendu. Alors, pas pour le championnat de France, mais pour trois matchs de Ligue des Champions, sanctionné pour avoir proféré des insultes envers l'arbitre. C'était lors de la rencontre PSG-Manchester United, après le fameux pénalty fatal aux Parisiens accordé après un recours à l'arbitrage vidéo. Paris, toutefois, va faire appel. On a appris aujourd'hui la mort du père d'Emiliano Sala. Vous savez, c'est ce joueur de foot qui est mort dans un accident d'avion en janvier dernier. Il avait 58 ans, il a succombé à une crise cardiaque. Et puis en rugby, Raphaël Ibanez sera le manager des Bleus après le Mondial au Japon. Il a dit oui à Bernard Laporte et c'est Fabien Galthié qui devrait devenir sélectionneur. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Valérie Darmon, et ça ne s'annonce pas terrible du tout ce week-end.
Absolument, c'est pas beau et c'est pas folichon. Du centre aux Hauts-de-France en passant par le bassin parisien, après les pluies du matin, le ciel va devenir plus variable et les averses parfois orageuses vont prendre le relais dans l'après-midi après une courte accalmie, avec même du grésil par endroit et le vent qui va souffler aussi sur ces régions entre 60 et 70 km/h sur le bassin parisien et sur le littoral de la Manche jusqu'à 100 km/h. Du Grand Est à la région Auvergne-Rhône-Alpes, il pleuvra aussi et il neigera en moyenne montagne sur l'ensemble des massifs. Attention d'ailleurs au risque d'avalanche sur les Alpes. En PACA, le temps est à l'amélioration avec un ciel tout au plus voilé et un vent d'ouest sensible entre la Corse et le continent. En Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, les averses se généralisent jusqu'en deuxième partie d'après-midi. Et puis de la Bretagne à la Normandie, le temps est très agité. J'ai fait le tour des régions, tout cela sous des températures entre 11 à Rodez et 21 à Toulon. Je parle évidemment des maximales, 13 degrés annoncés en région parisienne.
La météo signée Valérie Darmon,
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant, l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le fondateur de Drivey, le leader européen de la location de voitures entre particuliers. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h18, comme tous les soirs sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle.
Alors la fin de semaine a été hésitante à Wall Street.
Oui, une séance hésitante, mais ça monte. Le Dow Jones gagne 0,31%, 26 543 points. Le Nasdaq plus 0,34, 8 146 points. La séance a été marquée par l'annonce d'une croissance de l'économie américaine particulièrement forte au premier trimestre, plus 3,2%. Pour le produit intérieur brut, c'est un chiffre très élevé et bien supérieur aux attentes de tous les économistes. Mais ça ne dissipe pas les doutes des marchés. Et puis on a encore beaucoup, beaucoup de résultats d'entreprises, mais des résultats contrastés. Ils sont bons pour Amazon, le titre monte de 2,5%. Ils sont bons surtout pour Ford, le constructeur automobile, et le titre décolle de plus de 10%. Mais parmi les perdants du jour, on trouve Intel. Là, le titre dévisse de 9%. Grosse déception aussi pour le géant pétrolier ExxonMobil avec une action qui perd 2,2%. Le pétrole boit d'ailleurs la tasse ce soir. Donald Trump a encore réclamé aux pays producteurs une baisse des prix du brut. Et du coup, le WTI chute de 3%, 63,30 $. Et puis l'euro remonte de 0,2%. Et s'échange contre 1,1152 $.
Le CAC 40, lui, résiste à la chute du pétrole et termine en petite hausse ce soir.
Oui, avec un gain de 0,21% pour le CAC qui clôture la semaine à 5 569 points. Les investisseurs ont encore dû intégrer une avalanche de résultats d'entreprises comme à New York. La plus forte hausse du CAC, elle est pour l'équipementier automobile Valeo, plus 6,6% pour Valeo après une performance trimestrielle solide. Et le maintien de ses objectifs pour cette année. Résultat applaudi aussi pour Renault qui monte de 2,3%, pour Sanofi, le groupe pharmaceutique qui gagne 3,5%, et puis Safran signe un nouveau plus haut historique, plus 3,4% pour l'équipementier aéronautique.
Mais il y a aussi ce soir, Claire, de mauvais élèves.
Oui, avec du rouge pour Total, dont les résultats trimestriels ont été pénalisés par le recul des cours du brut et du gaz, moins 1% pour Total. Et puis puis la dégringolade du jour est pour Capgemini, le groupe de conseil et de services informatiques lourdement sanctionné après ses résultats puisqu'il perd 5%. Le bilan est mitigé ce soir pour les indices européens. Londres et Amsterdam 7,01%, plus 0,3% pour Francfort et plus 0,4% pour Bruxelles. Madrid est stable, Milan plus 0,1% et le CAC 40 gagne 0,2%, 5 569 points.
Merci beaucoup à vous Claire Lemaître de Boursier.com et très bon week-end. Et à 22h20, c'est l'heure de retrouver Emmanuel Dutheil et son invité. Emmanuel, vous recevez ce soir le fondateur de Drivee.
Bonsoir Paulin de Menton.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Drivee. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est le leader européen de la location de voitures entre particuliers. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous venez d'annoncer que vous vous vendez à un gros concurrent américain qui veut devenir le leader mondial du secteur. 300 millions de dollars. Toute première question. Pourquoi une start-up française que vous avez vous-même, à titre personnel, montée, inventée, pourquoi vous vous vendez à un Américain ?
En fait, le marché de l'automobile qui est en train de se transformer, c'est un marché de plusieurs milliers de milliards d'euros. C'est un marché absolument colossal. On est dans une transition de la voiture comme propriété vers l'accès à la voiture comme service. Donc il y a des enjeux absolument colossaux en termes de taille de marché. Et pour y arriver, on s'est dit que c'était un bon moment d'être à la fois beaucoup plus gros, plus puissant financièrement, et aussi d'être une entreprise globale. C'est-à-dire que c'est bien d'être européen, mais avoir à la fois une jambe très forte aux États-Unis et en Europe, ça nous apporte énormément de force en plus pour réussir sur ce marché qui est absolument phénoménal.
Mais vous êtes racheté par une entreprise qui est grosso modo de la même taille que vous. Pourquoi ce n'est pas vous qui rachetez ?
Ils sont de la même taille, mais beaucoup plus technologiques. Ils ont une technologie brevetée, donc Getaround, à une technologie de connexion des voitures. Et on a eu une approche un petit peu différente. Et ils ont levé assez récemment 300 millions de dollars, ce qui leur a permis de consolider le secteur. Effectivement, moi, je me suis posé depuis longtemps la question de s'associer pour arriver à former une boîte mondiale. Et là, ça a été une très bonne occasion de le faire.
Alors, c'est vrai que ça va créer un nouveau leader. Malgré tout, est-ce que ça renvoie pas une fois de plus le signal qu'en France, on manque pas d'idées ? Parfois, on arrive à très bien les développer. Hein, c'est votre cas, puisque vous étiez vraiment devenu leader européen en quelques temps. Mais que voilà, on trouve pas assez de sous pour continuer de grossir et qu'à chaque fois, il faut se marier contraint et forcé, même si, comme vous nous le dites, vous êtes, semble-t-il, plutôt content.
On n'est absolument pas contraint et forcé, c'est exactement l'inverse. On avait beaucoup d'options sur la table, on pouvait tout à fait rester indépendant, mais encore une fois, il vaut mieux avoir une part du leader mondial que de vouloir rester dans son coin et de ne pas s'ouvrir sur le monde. Je pense que dans un marché qui est aussi rapide, avec tous les constructeurs automobiles, des géants comme Uber, Lyft, etc., qui investissent des milliards, il faut absolument pouvoir se développer rapidement.
Concrètement, grâce à ce rapprochement, qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui va être plus simple quand moi je vais utiliser Drivee pour louer ma voiture ?
Alors, on va continuer à investir énormément dans améliorer l'appli pour que vraiment, en une minute, on puisse être en train de marcher et trouver une Drivee à deux pas de chez soi. Donc, il y a toute la partie améliorer l'appli, toute la partie ingénierie. Et d'autre part, on va beaucoup investir pour densifier la flotte de véhicules, non seulement en France, mais dans les autres pays où on est déjà, donc à Londres, à Berlin, à Barcelone, à Madrid, à Bruxelles, etc. Et puis ensuite, on va ouvrir des nouveaux pays. Et donc, plus
quels vont être ces nouveaux pays, vous savez déjà ?
On va regarder dans toute l'Europe. On n'a pas encore de liste, on n'a pas encore d'a priori, mais on va clairement se tourner vers l'international. Et en gros, pour nos clients, plus de voitures sur Drivee, plus dense, ça veut dire un meilleur service, puisque le but, c'est d'absolument d'avoir plusieurs voitures à distance de marche pour que le service soit fiable.
Vous voulez vraiment le rendre comme le dispositif du quotidien à la minute.
Exactement, on veut que prendre une voiture sur Drivee, ça soit absolument instantané, automatique. Et de plus en plus, il y a des gens qui nous font confiance, qui vendent leur voiture, qui n'achètent plus de voiture et qui font que du Drivee, non seulement pour des week-ends et des vacances, c'est un peu de là où on vient, des durées plus longues, mais maintenant de plus en plus pour des locations dans un cadre professionnel, pour des trajets de quelques heures où juste on prend un Drivee, on va faire une course ou on va à un dîner et on revient ensuite.
Est-ce que ces vacances de Pâques ont été un bon moment, par exemple, pour ceux qui ont envie de louer des voitures, puisque ça reste aussi une période qui est importante pour vous, les vacances scolaires ?
Oui, à Pâques, pendant le week-end de Pâques, on a battu notre record historique. On n'avait jamais eu autant de véhicules sur la route. Donc effectivement, même si on a de plus en plus de locations en semaine pour des usages professionnels, ça reste quand même les gros ponts, le Pâques et les gros ponts de mai qui arrivent restent quand même les moments forts de l'année. Donc c'est un très très bon moment pour ajouter sa voiture sur Drivee, puisque pendant toutes les périodes de vacances, ça génère beaucoup de revenus.
Vous avez du mal à trouver, justement, au-delà des professionnels et des flottes de loueurs, notamment dont vous parliez, vous avez du mal à trouver les particuliers qui laisseraient leur voiture? Il y a encore un petit frein ou pas du tout?
Alors, il y a toujours des freins. Quand j'ai lancé Drivee il y a 10 ans, on me disait, mais c'est une idée de fou, jamais personne va accepter de partager sa voiture avec ses voisins. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte que sur un parc de millions et de millions de voitures, il n'y a pas besoin de convaincre 100% des gens. Donc, il y a des personnes qui ont été convaincues dès le début. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'on a renforcé l'entreprise, le service, qu'on a développé un partenariat très fort avec Allianz, les gens nous font de plus en plus confiance et on arrive à avoir assez facilement des voitures. On a plusieurs centaines de véhicules chaque jour en Europe qui s'ajoutent sur Drivee.
Et le gros saut technologique qui vous avait permis de grossir et d'accélérer, c'est vraiment le fait qu'on n'ait pas besoin de voir le propriétaire de la voiture pour récupérer la clé, ce qui était au démarrage le concept. Maintenant, il y a un petit boîtier, hop, on arrive, on fait un code, on ouvre la voiture. C'est ça qui a été la grande différence et qui a permis l'accélération et qui permet d'aller vers la voiture à la minute, comme vous disiez tout à l'heure.
Exactement, la voiture connectée, pour nous, ça a tout changé. On a commencé à expérimenter seulement il y a 3 ans et on a décidé l'année dernière de vraiment mettre l'accent sur ce qu'on appelle nous Drivee Open, c'est-à-dire c'est l'appli Drivee qui permet d'ouvrir les portes de la voiture. Et ça a tout changé. Les clients préfèrent, les propriétaires n'ont plus à se déplacer, donc c'est beaucoup plus fluide. Et là, effectivement, on va sur des usages qui peuvent être seulement de quelques heures, tout en gardant une expérience très simple.
Je rappelle que c'est vous qui avez eu l'idée de Drivee, c'est vous le fondateur. Vous allez rester combien de temps là à la tête de la branche maintenant française de cette entreprise franco-américaine?
J'ai aucun horizon de temps parce que c'est une fusion qui est très particulière parce qu'en fait c'est pas un énorme groupe qui en avale un tout petit et on n'est pas là juste pour exécuter. On a vraiment une entreprise qui va reposer sur 2 jambes. Donc en fait on va faire la même chose avec la même mission d'avoir un impact positif sur les villes, mais avec beaucoup plus de moyens. Je reste aux commandes de l'Europe et j'ai pas d'idée claire de mon avenir à part travailler à fond pour que l'aventure continue.
Eh ben merci beaucoup d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Paulin de Menton, qui est donc le fondateur de Drivee, était notre invité. On se retrouve nous lundi 22h20 sur Europe 1.
À lundi évidemment. Merci à vous Emmanuel Dutheil. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Une photo d'Emmanuel Macron, de dos, à la une de Libération. Le président qui pointe son index derrière lui. Chacun interprétera ce cliché comme il veut. Libération titre, baisse de la fiscalité, impôts, beaucoup, pas du tout. Vous savez, comme ce jeu où on effeuille des marguerites avec des cases à cocher selon la réponse qui vous paraît la plus judicieuse. Le plan Macron à l'épreuve des réalités, titre pour sa part le Figaro. Les mesures annoncées par le président ne sont pas jugées à la hauteur par les gilets jaunes et par les oppositions. La pression sur l'exécutif reste forte. Petit papa président, écrit Isabelle Bollène dans le journal L'Alsace. Tout de même, on a un peu envie de le plaindre, Emmanuel Macron, non? Seul à la tête d'un pays qui n'aime rien tant que couper la tête de ses rois, tenu responsable de tout, y compris des erreurs de ses prédécesseurs et des contraintes venues de l'extérieur. Certes, c'est un peu de sa faute, nous dit la journaliste, mais il est aussi victime des institutions de la Ve République qui, depuis De Gaulle, font reposer tout le système sur les épaules du chef de l'État. Les Français s'y sont habitués et ceux-là même qui reprochent à Emmanuel Macron son autoritarisme et son arrogance attaquaient hier François Hollande pour son manque de poigne et son amateurisme. Nos rois républicains ne sont-ils pas condamnés à décevoir tant on place d'attente en eux pour changer cet état de fait? Sans doute faudrait-il faire évoluer le système institutionnel et redonner davantage de poids à la société civile. Charge à cette dernière de ne plus tout attendre du petit papa président et de réinvestir massivement le champ de l'action publique, que ce soit par le vote, par l'investissement associatif ou par le choix de modes de consommation différents. Le citoyen a plus de pouvoir qu'il ne le pense, conclut Isabelle Bollène. Enfin, rien à voir, le journal La Croix s'intéresse quant à lui à l'Inde. Les jeunes en mal de travail, à 3 semaines des élections législatives, les étudiants indiens s'inquiètent face à l'envolée du chômage. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et on va faire un nouveau détour rapide par Bordeaux avec vous Jean Berthelot pour la rencontre de Ligue 1 entre les Girondins et l'Olympique Lyonnais. Et décidément, il s'en passe des choses ce soir. Je crois que Lyon a repris l'avantage.
Exactement, il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire et Lyon mène 3-2. Les buteurs de Paille, Cornet, Dembélé du côté lyonnais, Dembélé qui vient de marquer. Et côté bordelais, ce sont Briand et Depréville qui avaient marqué chacun. Et c'est vrai que Lyon met une énorme pression sur les Girondins en cette fin de match. Il faut dire que Bordeaux est à 10 depuis l'expulsion de Jovanovic à la 73e. C'est très compliqué pour les Marines et Blancs avec de nouveau une attaque lyonnaise. Fekir qui entre dans la surface, Fekir qui dribble et qui va tirer peut-être. Non, ça, on réussit à écarter du côté bordelais. On reste pour l'instant à 3-2 pour Lyon devant Bordeaux.
Merci beaucoup Jean Berthelot en direct et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Catherine Blanc pour la Libre Antenne ce soir. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Isabelle.
Et je vous retrouve à 23h pour un prochain point sur l'info.
À tout à l'heure.